grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin dans ce studio avec moi, Maître Aimé Kilolo Moussamba Lubemba. Il est avocat au barreau de Bruxelles et au barreau de Lubumbashi, avocat du sénateur et ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bimba. Maître Aimé Kilolo, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio de Radio Okapi.
Ben, je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau et ce plaisir est partagé.
Avec vous dans notre entretien, on va vous présenter auprès des ces nombreux auditeurs de Radio Okapi que nous suivons en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Nous parlerons de votre parcours au barreau. Comment vous vous êtes retrouvé au barreau de Bruxelles, vous Congolais? Est-ce que c'est facile pour un étranger d'être retenu au barreau des Bruxelles? Vous travaillez aussi à la CPI en passant?
Tout à fait, je suis conseiller à la Cour pénale internationale.
Vous êtes né à Kinshasa?
Tout à fait, je suis né à Kinshasa le 1er janvier 1972.
Et c'est à Kinshasa où vous avez grandi?
Bien sûr, je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Kinshasa. J'ai été notamment pour l'école primaire au collège Boboto, par la suite j'ai été aussi au Loupio. Et alors pour le niveau secondaire, j'ai d'abord été à l'Athénée de la Gombe, par la suite j'ai été dans la grande région du Kivu, ce qui correspond aujourd'hui au sud Kivu, j'ai été au petit séminaire, le petit séminaire de Nyangezi, j'ai été aussi au petit séminaire de Mugeri.
Au petit séminaire parce que vous aspiriez devenir prêtre?
Disons que l'éducation catholique très rigoureuse que mon père avait lui-même reçue, il avait voulu m'en faire bénéficier aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai, je me réjouis d'avoir pu bénéficier de l'encadrement du Monseigneur Maroy, qui était à l'époque le recteur de l'université du petit séminaire de Mugeri où j'ai évolué. Et enfin, j'ai achevé mes études secondaires en latin philosophie, donc section littéraire, au collège Boboto à Kinshasa.
Ça fait quand même plusieurs écoles comme ça.
Oui, il faut dire que mon père a été muté dans le Kivu comme gouverneur. À l'époque, il était le gouverneur de la grande province du Kivu, donc les trois réunis. Avant cela, bien entendu, nous étions à Kinshasa parce qu'il avait des responsabilités ministérielles sous le régime du feu président Mobutu. Il était ministre, on disait commissaire d'État à l'époque.
Donc vous avez un diplôme en littéraire, latin, philo. Et après, vous décidez d'aller en Europe pour poursuivre l'université?
Oui, il faut dire que l'école universitaire au niveau du Congo doit encore être améliorée. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est encore un chantier sur lequel il faut travailler. À l'époque, effectivement, après...
Quoi, par exemple?
Eh bien, nous devons bien entendu constater que d'abord au niveau de la qualité des ouvrages, généralement les ouvrages auxquels ont référence nos professeurs d'université ne sont malheureusement pas toujours tenus à jour, donc ça pose une difficulté par rapport au niveau. Lorsqu'on parle par exemple de la faculté de droit, le Congo doit avoir évidemment vocation à participer au niveau universitaire tel qu'on peut le voir dans les grandes universités en Europe, par exemple l'université catholique de Louvain, l'université libre de Bruxelles. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore des choses à faire. Je pense aussi que la scolarité au niveau universitaire est encore gangrénée par des phénomènes malheureux de corruption qui font que parfois, en fin de parcours, les étudiants n'ont pas toujours le niveau qui est celui repris par le diplôme qui est octroyé. Quoi qu'il en soit, pour ma part, le choix fut fait à l'époque par mes parents de m'envoyer donc en Belgique où j'ai fait mes premiers pas aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur pour le premier cycle de candidature en droit.
Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre enfance à Kinshasa?
Eh bien, j'ai beaucoup aimé de me retrouver au sein d'une famille qui était très ouverte à la grande famille. C'est-à-dire que nous n'étions pas limités au noyau familial, papa, maman et les enfants. Nous avons vécu avec nos cousins qui venaient de partout. C'est vrai que j'ai un père qui est très très généreux et qui a accueilli finalement sa grande famille à l'époque qui venait du village, c'est-à-dire de Malembankoulou, mon village natal, et qui effectivement c'était évidemment une richesse de vivre tout ce bonheur et de pouvoir partager aussi avec les autres et surtout d'apprendre aussi à découvrir la misère, la préoccupation que d'autres personnes, membres des familles pouvaient vivre, parce que ça incite aussi bien entendu à la solidarité. Je dois aussi dire que j'ai beaucoup aimé aussi de voir mon père accéder à des fonctions politiques importantes dans ce pays, d'abord au gouvernement de Mobutu, ensuite au gouvernorat de la grande province du Kivu qui pose aujourd'hui problème avec l'instabilité sécuritaire à l'Est, et enfin de le voir aussi évoluer comme avocat en partie au barreau de Kinshasa, mais aussi bien entendu occuper les plus hautes fonctions administratives comme directeur principal à la Banque centrale. Ça a été évidemment une source d'inspiration.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Donc votre père était une source d'inspiration pour vous.
Tout à fait.
Alors en passant, il faut signaler aussi que vous êtes le petit-fils de Jason Sendwe.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Jason Sendwe est mon grand-père maternel. Et d'ailleurs, vous penserez donc au boulevard Sendwe à Limété, qui est effectivement, qui porte le nom de mon grand-père, qui était à l'époque vice-premier ministre dans le gouvernement Adoula, donc on est encore sous le gouvernement de Kasavubu, mais il a aussi été à un moment donné le président du Nord Katanga. Mais je voudrais surtout souligner que mon grand-père maternel a beaucoup milité pour l'unité du Congo comme un tout, ce qui lui a valu notamment d'être assassiné. Je pense d'ailleurs que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on devrait pouvoir en tout cas déposer sur la table la question de sa reconnaissance comme un des héros nationaux.
C'est la famille qui va, c'est la famille qui va demander à ce qu'on puisse reconnaître.
Au-delà de la famille, c'est non seulement le Katanga, je parle ici du grand Katanga. Il faut savoir que mon grand-père a été aussi le tout premier président national de l'ensemble de Baloubakat du Congo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Baloubakat sont répartis dans environ 5 provinces du Congo. Donc je parle déjà des 4 nouvelles provinces de l'ancien Katanga. Donc je parle du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika et le Lualaba. Mais je parle aussi de la province de Lomami dans l'ancienne province du Kasaï. Et je pense que c'est tout ce monde-là, mais c'est aussi des Congolais qui sont au courant de l'histoire de notre pays, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de relire dans le musée de Tervuren à Bruxelles. Et je pense qu'effectivement, ce type de reconnaissance, c'est important d'abord pour la mémoire.
Vous allez vous en charger personnellement. Je sens que vous êtes très motivé, hein.
Oui, j'apporterai ma pierre, bien entendu, à cette nécessité.
Maître Émile Kilolo, vous êtes marié?
Oui, tout à fait, je suis marié, père de famille. C'est vrai que ma famille vit encore en Europe, pour le moment en Belgique. Pour ma part, je m'investis dans un retour définitif au Congo, parce que je pense qu'après
avoir... Fatigué de vivre en Europe?
Non, pas du tout. Je pense que j'ai accumulé suffisamment d'expérience en Belgique, mais aussi surtout dans la sphère internationale où j'ai fait plusieurs rencontres, j'ai voyagé dans plusieurs pays à travers le monde, en Afrique, en Europe et même en Amérique, et je dirais même en Asie aussi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, oui, j'ai suffisamment d'expérience que je pourrais humblement mettre à disposition.
Expérience professionnelle ou c'était pour raison d'études, recherche?
Bon, il faut dire que j'ai accumulé évidemment de la connaissance très approfondie dans les cadres de mes études, parce qu'après, évidemment, ma licence en droit, je me suis aussi spécialisé en droit pénal international en troisième cycle. Mais il faut aussi dire que c'est une expérience professionnelle comme avocat. En Belgique, c'est la capitale de l'Europe, donc j'ai une connaissance avérée du droit européen, du droit international. J'ai aussi évolué évidemment dans la plus grande cour du monde au niveau pénal aujourd'hui, la CPI pendant près de 9 ans. Et donc tout ceci, évidemment, est un acquis important que je voudrais mettre à disposition, bien entendu, de mon pays. Il faut dire aussi que je voyageais, j'ai été dans plusieurs pays, j'ai mené des missions internationales dans plusieurs pays. Et tout ceci, évidemment, a été une richesse parce que ça a été fait dans un cadre professionnel qui m'a permis de voir aujourd'hui le fonctionnement du monde. Et aujourd'hui, avec la réalité de la mondialisation, le défi que le Congo doit relever pour retrouver sa place de choix dans le concert de nations, oui, je pense que c'est un devoir pour moi de contribuer aujourd'hui au développement de mon pays.
Alors, vous allez contribuer concrètement comment ?
Eh bien, je commencerai d'abord par m'installer. C'est ce que je viens d'ailleurs de faire. J'ai été il y a 2-3 jours au secrétariat de l'Ordre national des avocats au Congo qui a réactualisé et confirmé évidemment mon inscription comme avocat ici au Congo. C'est très important pour moi. C'était déjà une ambition que d'être avocat dans mon pays après l'avoir été tant d'années à l'étranger. C'est vrai que je continue encore de l'être. Et puis par la suite, c'est vrai, je regarde la situation, l'évolution de la situation politique au pays. Je suis proche de mon client, naturellement, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Et puis, à un moment donné...
La politique commence à vous tenter.
Disons que j'ai évolué, évidemment, dans une ambiance familiale très, très politique, de par mon grand-père, Jason Sendoué, de par mon père aussi, qui a d'ailleurs été l'initiateur de la création du ministère de la fonction publique. Et d'ailleurs, la loi aujourd'hui portant statut et fonctionnement des agents de l'État est une loi qui a été initiée dans les années 80 par mon père et qui n'a jamais connu de modification législative. Donc elle est toujours d'actualité. Oui, c'est vrai, il y a cette réalité familiale, mais il y a aussi évidemment mes études de droit, il y a aussi bien entendu mon expérience au sein de la Cour pénale internationale qui m'amène derrière les rideaux dans un procès politico-judiciaire qui m'amène à voir des personnalités importantes, ceux-là que l'on appelle des faiseurs de roi aujourd'hui dans le monde ou en Afrique. Et donc tout ceci, oui, c'est vrai, m'a permis d'être au contact des réalités politico-diplomatiques internationales touchant, bien entendu, à l'avenir de notre pays. Et je serai évidemment honoré au moment venu d'apporter ma pierre à l'édifice, parce que je pense aussi que les difficultés aujourd'hui que nous connaissons dans la vie politique de notre pays, c'est évidemment le fait que un certain nombre de députés ont été élus sans nécessairement justifier d'un niveau minimum d'instruction. Et je le dis, c'est très important parce que vous savez qu'on a eu des problèmes pour le fichier électoral. Mais cette difficulté de fichier électoral dont on parle maintenant à l'issue de la 5e année de la législature en cours, en réalité est un problème qui aurait dû être anticipé à tout le moins il y a 4 ans, à la fin de la première année de la législature, si les députés, y compris ceux de l'opposition, avaient eu la vigilance nécessaire pour savoir qu'il fallait, dans le cadre de l'exercice du contrôle du fonctionnement de la démocratie, vérifier au niveau de bourgmestre s'il disposait des moyens logistiques et financiers suffisants pour tenir à jour les registres de la population et faire le travail indispensable à travers les chefs des quartiers, les chefs des avenues, vérifier les habitants de chaque commune à travers toute l'étendue de la République, ramener l'information auprès de l'autorité nationale pour que, une fois la fin de la législature après 5 ans, eh bien, il n'y a aucun problème de fichier électoral qui devrait se poser.
Les responsabilités sont partagées aujourd'hui.
Je pense que la difficulté à laquelle on a été confronté et qui a amené à ce dialogue national est une faillite du système politique au Congo. Je parle bien de la majorité que de l'opposition.
Et Maître Emeki Lolo, vous avez étudié à l'Université catholique de Louvain, l'Université Saint-Louis et l'Université de Namur.
Oui, tout à fait. J'ai fait toutes ces universités. C'est vrai que je commençais par l'université de Namur, faculté universitaire Notre-Dame-de-la-Paix. C'est une université catholique. Il faut savoir que je venais de terminer mes études secondaires au collège Boboto, donc chez les pères jésuites. J'ai continué dans la même école de pensée. Je poursuivis le deuxième cycle en licence, évidemment, à l'université catholique de Louvain, qui traditionnellement travaille de concert avec l'université de Namur. Et c'est vrai, je me réjouis évidemment de préserver aussi les valeurs chrétiennes dans les cadres de ma formation universitaire.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Eh bien, il faut savoir que je suis chrétien, j'ai une foi chrétienne. Je sais que Dieu a créé le monde, mais en même temps, je pense, comme le philosophe Jean-Paul Sartre, que Dieu a fait notre existence, mais il nous appartient, nous, en tant qu'hommes, de faire notre exister. Et je pense que ce que je n'aime pas trop, c'est ce que disaient certains philosophes en disant « la véritable détresse, ce n'est pas la détresse elle-même, mais c'est l'absence de détresse, c'est-à-dire l'absence de prise de conscience. » Aujourd'hui, le Congo est dans une situation misérable lorsque l'on pense au scandale géologique, lorsque l'on pense aux potentialités agropastorales au sein de notre pays. Je pense que il y a sans doute un problème de prise de conscience. Je pense que les Congolais n'ont pas suffisamment pris conscience du fait qu'il faut tout faire aujourd'hui pour sortir notre pays du sous-développement et qu'il est important, même dans les cadres des élections à venir, de choisir des personnalités, non seulement parce qu'ils ont de l'argent pour payer des électeurs, c'est d'ailleurs un système de corruption déplorable, mais il faut aussi s'assurer que ces personnalités répondent à un profil d'instruction et je dirais peut-être même de moralité suffisante pour aspirer, représenter le Congolais au plus haut niveau des institutions de l'État pour le plus grand bien-être des Congolais.
Alors, vous avez été président des étudiants aérois de l'Université de Louvain-la-Neuve.
Tout à fait, donc de l'USL, à l'époque on parlait de l'Union des étudiants aérois de Louvain-la-Neuve. J'ai organisé plusieurs conférences, débats. Je me rappelle d'ailleurs de ma première grande conférence.
Est-ce qu'il y avait beaucoup d'étudiants aérois?
Oui, tout à fait. Il faut dire que au niveau de licence, généralement, ça s'estompe. Moi, je me souviens, j'ai commencé avec des nombreux étudiants aérois en première année de l'université. Nous étions peut-être une trentaine. Mais au fur et à mesure, des étudiants qui viennent du Congo, où le système éducatif est différent, se retrouvent en Belgique dans un système un peu de libertinage. C'est vrai que d'aucuns y ont laissé leur plume en versant évidemment dans les boîtes de nuit, dans des distractions mondaines qui les ont égarés par rapport à l'objectif universitaire. Mais en même temps, oui, je dirais au niveau de licence, oui, on se retrouvait plutôt, ce n'était plus 30, c'était 5, c'était 6. Mais ce qui m'a beaucoup frappé d'ailleurs dans mon parcours universitaire, je me souviens d'un ami belge qui me pose la question lorsque nous avions notre cours de métaphysique. Alors la métaphysique est un niveau de philosophie beaucoup plus développé et qui nécessite évidemment des qualités et des capacités conceptuelles très élevées. Alors l'ami me posait la question, mais est-ce que tu arrives à suivre comme nous les blancs? Il dit, je te pose la question amicalement parce qu'on entend dire que les Africains ont des difficultés, il y a des déficiences au niveau, en tout cas des limites intellectuelles parce que vous, c'est plutôt, comme disait Léopold Sédar Senghor, la raison est hélène et l'émotion est nègre. Et donc, vous n'êtes pas très cartésien. Alors, comment vous arrivez à suivre ce cours? Moi, je lui ai dit, écoutez, je te fixe rendez-vous lors de la proclamation de résultats et je tiens à ce que nous puissions comparer nos notes, nos résultats, en tout cas en ce qui concerne ce cours de métaphysique, et on verra bien.
Mais je pense,
non, dans un effort de compréhension, j'ai compris que c'était de bonne foi. C'était un bon ami à moi que j'avais rencontré à l'université.
Est-ce que votre nom a une signification particulière, Kilolo Moussamba Lubemba?
Eh bien, Kilolo fait allusion évidemment aux notables dans nos villages. Kilolo, en fait, c'est un chef. C'est un chef qui est en fait un des chefs plus local au niveau coutumier dans nos villages. Je sais que ça évoque l'idée de chef. J'assume évidemment ce nom que j'ai hérité de mon père.
C'est quoi votre plat préféré?
Eh bien, rendez-vous compte que j'ai beaucoup souffert lorsque j'ai été admis aux côtés de mon client dans le quartier pénitentiaire de La Haye pendant un an, notamment parce que on nous infligeait des plats hollandais, je veux dire des plats typiquement européens. Moi, je suis friand des makemba, de tilapia, capitaine, pondou. C'est ce que j'aime bien. Heureusement que nous avions pu organiser à l'époque pour que des supermarchés africains qui implantés à La Haye puissent alimenter ceux qui le souhaitaient avec des plats africains. Je suis évidemment depuis près de 25 ans en Europe, mais le cœur est resté évidemment dans mon pays, sur la terre de mes ancêtres.
Vous aimez la musique, Maître Aimé Kilolo?
Lorsque j'ai rencontré Koffi Olomide il y a 2 ou 3 semaines dans un contexte tout à fait professionnel, j'ai eu l'occasion de lui dire que j'aimais beaucoup sa musique et il a apprécié.
Quelle chanson de Koffi
que
vous aimez particulièrement?
Eh bien, vous m'excuserez de ne pas retenir les titres des chansons, mais j'aime bien de façon générale ses chansons, surtout les chansons où il évoque l'amour, parce que je pense que tout le bien-être auquel aspire les hommes sur terre se résument bien entendu en l'amour. C'est d'ailleurs grâce à cet amour que le Christ a donné sa vie pour que nous soyons sauvés.
Et donc, je peux vous proposer n'importe quel titre de Koffi, ça vous ferait plaisir.
Ben, écoutez,
vous me laissez le choix.
Faites-moi 2-3 suggestions, je pourrais choisir.
Fazer.
Oui, pourquoi pas.
On prend Fazer.
Très bien.
Alors, Hippolyte Kapanga va nous proposer Fazer pour le plaisir de Maître Aimé Kilolo que nous recevons aujourd'hui dans Grand Témoin. J'espère aussi que cette chanson fera plaisir à tous ces auditeurs que nous suivons en ce moment par ton RSC. Oui, Maître.
J'aurais surtout aimé des chansons qui sont chantées par Cindy Lecoeur. Les chansons de Koffi sont chantées par Cindy Lecoeur.
Hippolyte, quelque chose te vient à l'esprit? D'accord, tu vas nous trouver quelque chose avec Koffi et Cindy. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Michel Kanyembo, mon ami Tam Tengombei, leader y a presse.
Il
Elles parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Maître Aimé Kilolo Moussamba est celui que nous vous présentons aujourd'hui. Il est avocat au barreau de Bruxelles et au barreau de Lubumbashi, avocat du sénateur en service président de la RDC Jean-Pierre Obimba. Maître Aimé Kilolo, ça fait près de 20 ans que vous êtes avocat au barreau de Bruxelles.
Oui, il faut dire que dès que j'ai achevé mes études universitaires, dans des circonstances d'ailleurs fortuites, parce que moi, mon idée était, après mes études, c'était de retourner au Congo. J'avais deux visées. Premièrement, c'était d'être un fonctionnaire de la Banque centrale, comme a pu l'être mon père. Et par la suite, oui, je me voyais aussi m'insérer dans la vie politique de mon pays.
Et qu'est-ce qui vous a retenu ?
Eh bien, les circonstances ont fait qu'un ami, juste à la fin de mes études universitaires, a subi ce que j'ai ressenti comme une grande injustice, comme une discrimination raciale. C'est-à-dire que l'Université catholique de Louvain lui a refusé la possibilité de refaire pour la troisième fois sa première licence en droit, donc la possibilité de tricher, en dépit de l'avis favorable qui avait été donné par le conseil facultaire. Alors, révolté évidemment par cette injustice, j'ai entrepris moi-même de démarches pour engager une action en justice. Et je vais d'ailleurs là vous parler de ma première plaidoirie, parce que lorsque nous arrivons, je saisis le Conseil d'État dans le cadre d'un contentieux administratif, parce que je considérais que c'était une décision académique de l'autorité administrative, et à ce moment-là, nous n'avons pas d'avocat. Alors, je découvre les juges qui siègent devant le Conseil d'État ce jour-là, Monsieur Jules Messine, que je reconnais parce qu'il est professeur à l'Université libre de Bruxelles. Je me présente évidemment comme étant un syndicaliste représentant des avocats congolais de Louvain-la-Neuve, et je demande l'autorisation, non pas de plaider, mais d'être le porte-parole de l'étudiant qui était juste à mes côtés et qui ne savait pas articuler en droit ses prétentions. J'ai été autorisé exceptionnellement et j'ai plaidé d'ailleurs contre un avocat de grand renom dans le cadre de cette affaire, et c'est depuis ce moment-là, et je vous dirais bien, dès le lendemain, j'ai entrepris des démarches et j'ai découvert que il existait des conventions entre le Congo, déjà depuis l'époque de l'indépendance, et la Belgique, la métropole, qui permettaient effectivement à des ressortissants congolais qui justifiant d'un diplôme universitaire et ayant vécu un certain nombre d'années, donc accoutumés aux mœurs et aux pratiques belges, de pouvoir s'inscrire et accéder au barreau, et c'est ce que j'avais fait.
Et donc, s'il n'y avait pas cette situation, vous seriez rentré au pays ?
Très difficile de savoir ce qui serait arrivé. En tout cas, je dois bien noter qu'après tant d'années au barreau de Bruxelles, j'ai accumulé tellement d'expériences, un carnet d'adresses tellement important que tout ceci doit absolument être mis au profit de notre pays, surtout à l'heure de la mondialisation où dans les rapports de force, on doit tout de même reconnaître que nous subissons pas mal d'influence, que ce soit sur le plan économique que sur le plan politique, des réalités, des impulsions qui viennent d'ailleurs essentiellement de l'Europe.
Est-ce qu'on retrouve beaucoup de Congolais au barreau de Bruxelles ?
Bon, il faut dire que lorsque j'accède au barreau de Bruxelles, nous étions moins de 10 Noirs. Au barreau de Bruxelles.
10 Noirs, pas Congolais.
Moins de 10 Noirs. La majorité était Congolais, il y avait peut-être 2-3 autres nationalités. Mais il faut dire que oui, on était peut-être 6-7 Congolais en tant que tels. Et au fur de temps, et je pense que avec l'exemple que nous avions pu, nous qui étions, je dirais presque la première génération d'avocats congolais au barreau de Bruxelles, lorsque les étudiants qui étaient en droit ont vu que nous réussissions, que nous assistions de nouvelles voitures. Moi, en réalité, j'avais à peine 30 ans comme avocat au barreau de Bruxelles, par le fruit des efforts. Ma toute première maison, oui, je l'ai achetée aussi, étant encore très très jeune. Et donc tout ceci était un exemple et une incitation pour des étudiants aérois ou congolais qui ont commencé à aspirer à accéder au barreau. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près un peu moins de 100 avocats congolais au barreau de Bruxelles.
généralement, vous avez qui comme client des Noirs?
Bien, il faut reconnaître que le racisme latent est une réalité qu'on ne peut pas aujourd'hui nier. Et donc, ça fait que lorsque vous êtes avocat noir, vous allez difficilement avoir la plus grande banque, l'ING, venir vous consulter, alors qu'il y a des avocats autochtones qui se succèdent par tradition, parce que son oncle est ministre, son oncle ou son père est aussi avocat, magistrat, juge d'instruction, ainsi de suite. Mais il faut dire que par l'effort, et ça j'ai bien vu, par l'effort, on peut accéder, bien entendu, à des bonnes positions, avoir une bonne clientèle. Ça a pu être en tout cas mon cas aujourd'hui. J'ai pu effectivement évoluer très très bien. J'ai même formé deux avocats congolais qui ont été mes stagiaires, dont l'un d'ailleurs aujourd'hui est aussi avocat pleinement inscrit au tableau de l'ordre des avocats de Bruxelles. Et l'un d'entre eux, je l'ai formé à tel point qu'aujourd'hui où nous parlons, il est même admis comme conseil assistant à la Cour pénale internationale.
Généralement, c'est des Noirs qui viennent vers vous.
Bien, il faut dire que j'ai une clientèle variée, parce que lorsque vous commencez la profession à Bruxelles, ce qui se passe, quoi, c'est que vous passez d'abord par ce qu'on appelle les prodéos. Mais les prodéos, à la limite, ce n'est même pas le client qui vous choisit. C'est le client qui vient et que l'avocat est désigné, je veux dire, à tour de rôle, en fonction, bien entendu, du roulement qui est organisé. Et ça fait que j'ai eu plusieurs clients de plusieurs nationalités. J'ai eu de Russes, j'ai eu des Belges, j'ai eu de Français, j'ai eu beaucoup de Roumains, donc qui émanaient de l'Europe de l'Est. Alors maintenant, lorsque vous avez déjà ce contact avec le client et que le client est satisfait, ça génère évidemment dans son propre réseau une clientèle. Moi, par exemple, je dirais 80% de ma clientèle a été constituée essentiellement des Russes, des Ukrainiens et des Roumains. J'ai eu très peu d'avocats, de clients congolais. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président du Congo, fait partie des mes rares clients congolais.
Alors, puisque vous parlez de Jean-Pierre Bemba, vous êtes conseil principal du sénateur Jean-Pierre Bemba. Pourquoi vous avez accepté de plaider pour lui?
Eh bien, il faut d'abord dire ceci. Jean-Pierre Bemba, je ne le connaissais pas. J'ai vu Jeune Afrique faire plusieurs commentaires en disant Jean-Pierre Bemba a choisi Maître Kilolo parce que son père, les deux pères étaient des Mobutistes qui se sont retrouvés à un moment donné dans les rouages du pouvoir Mobutu, ainsi de suite. Loin de là, je n'ai jamais posé la question évidemment à Jean-Pierre Bemba, pourquoi tu m'as tant fait confiance? Et d'ailleurs, ce serait inapproprié parce que ce serait une remise en question de cette confiance. Mais je dois simplement dire que j'ai eu affaire à un compatriote congolais. Loin des considérations, je dirais, tribales, a demandé à un autre compatriote congolais qui, disposant de nombreuses années d'expérience comme avocat à Bruxelles, d'assumer sa défense et de gérer un litige de sa vie. C'est quand même, quand on est devant la CPI, les plus grands crimes dont un être humain peut être accusé. Et j'ai été très profondément touché.
C'était quand même grave, les charges qui pesaient sur lui, mais vous avez accepté quand même de l'accompagner.
J'aime beaucoup les défis. Et je pense que c'était pour moi un moment important de ma vie que d'entrer dans cette grande école où j'allais, bien entendu, assumer une défense judiciaire, mais aussi rencontrer des obstacles diplomatiques et politiques auxquels je devais être confronté, que je devais traverser. Je l'ai fait avec beaucoup de fierté et surtout l'occasion de présider une équipe composée des grands avocats de ce monde, des baristères venus de Londres, des avocats bien entendu de Bruxelles, de Paris, et surtout de travailler avec des grands experts militaires émanant des grandes écoles, notamment l'Académie royale militaire de Bruxelles, l'école militaire, l'Académie militaire de Saint-Cyr à Paris. Donc ça a été une grande richesse. Je pense qu'aujourd'hui, je peux humblement tenir un débat sur l'organisation des opérations militaire avec un général de l'armée.
Ça traîne quand même, ce procès. Ça fait longtemps qu'il a commencé.
Oui, cela est dû à beaucoup de réalités, et notamment une des réalités, c'est le fait qu'en début 2008, lorsque le procureur de la CPI demande la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, les juges eux-mêmes sont le premier à lui dire « mais vous n'avez aucun élément de preuve pour qu'on délivre ce mandat d'arrêt ». Et finalement, même lorsque le mandat d'arrêt est délivré, le procureur dit « voilà, Bemba était impliqué personnellement dans des crimes en Centrafrique ». Les juges lui répondent encore en disant « mais écoutez, vous n'avez aucun élément de preuve que Jean-Pierre Bemba était personnellement impliqué dans la commission de crimes ». Et là, ça continue, on n'appelle pas le président Patassé, on n'appelle pas le président Bozizé qui étaient les deux belligérants du conflit centrafricain, et finalement, on commence seulement à mener des enquêtes qui finalement, puisque bon, vous savez, le droit, ce n'est pas la science exacte, on est dans la science humaine, et donc on est aussi dans des risques d'erreur, et à ce moment-là, on construit un dossier, Jean-Pierre Bemba se retrouve condamné, mais surtout, ce qui est important, c'est de noter le fait que, au moment où nous parlons, il continue à bénéficier de la présomption d'innocence, parce qu'il a interjeté appel, mais je me réjouis surtout de savoir que les 5 juges qui sont appelés à statuer en appel, ont bien entendu le pouvoir de reformer et de casser complètement la décision qui a été prise par les 3 juges.
Vous pensez que ça pourrait arriver ?
Eh bien, les experts partagent cet avis. Je suis d'accord avec eux dans la mesure où ça va être très difficile pour les juges d'aller à l'encontre d'une expertise. Vous savez, dans ce type de procès, les juristes ne se suffisent pas à eux-mêmes. Ils ont besoin de recourir, évidemment, aux experts militaires qui, eux, peuvent dire, au regard de la science militaire, est-ce que Jean-Pierre Bemba commandait les troupes MLC à Bangui ? En tout cas, l'expert général de brigade Jacques Séhara, qui est un général Uchi d'une des plus grandes armées du monde, l'armée française, nous a dit que non, que Jean-Pierre Bemba n'était pas responsable. Et nous attendons bien entendu de connaître la décision qui sera rendue très prochainement par les juges d'appel dans ce dossier.
Alors, vous êtes à la CPI comme conseil principal du sénateur Jean-Pierre Bemba, mais vous-même, vous avez été aussi inculpé, maître Kilolo.
Vous me faites penser à mon ouvrage qui est en cours d'élaboration, Dans les coulisses de l'affaire Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale, expérience d'un avocat au barreau et derrière les barreaux. Cet ouvrage est en cours d'élaboration. Je ne saurais pas vous en donner les prémices ni la primeur, mais je vous dis que j'ai commencé à rédiger cet ouvrage depuis, et d'ailleurs c'est la formulation que j'ai faite, je rédige ce livre témoignage depuis le quartier pénitentiaire de La Haye, pour que toutes les personnes aient pris des justices, que tous les avocats, que toutes les personnes qui veulent combattre les traits enflammés de l'injustice puissent connaître la réalité de la justice internationale, non pas telle qu'on la présente, mais telle qu'elle est, elle est dans sa réalité.
C'est quand même une première dans l'histoire de la CPI qu'un avocat d'un détenu puisse être à son tour être inculpé.
J'attends que tout le dossier Jean-Pierre Bemba soit complètement terminé pour que je puisse révéler aux Congolais et au monde un certain nombre de réalités qui ont émaillé ce dossier Jean-Pierre Bemba. C'est un devoir de mémoire.
Vous affirmez dans presque toutes vos interviews que ce procès est politique.
Eh bien, il faut reconnaître ceci. Lorsque une personne est inculpée devant une justice pénale quelconque, eh bien, la première garantie dont il bénéficie, c'est la possibilité de bénéficier de l'indépendance objective et subjective de la justice. Ça veut dire que le juge a la possibilité de dire « Je vous remets provisoirement en liberté en attendant de connaître le verdict final et j'ordonne que vous exécutiez cette remise en liberté dans telle région de ce pays. » Alors, une justice pénale internationale, c'est-à-dire, ça couvre plusieurs pays dans le monde qui sont des États parties. Lorsque le juge n'a pas la possibilité de dire « Je vous libère, mais j'ordonne que vous résidiez dans X État parti », parce qu'au sein de cet État parti, le pouvoir politique doit aussi interférer et donner son avis et dire s'il accepte ou pas d'accueillir cette personne sur son territoire dans le cadre de la mise en liberté provisoire. Il y a là, bien entendu, clairement, une interférence politique dans le cours de la justice et je pense que ça va faire partie de réformes de la Cour pénale internationale que je vais proposer dans mon prochain ouvrage.
Alors, maître Emeki Lolo, ça fait quoi de perdre un procès ? Ça vous est déjà arrivé ?
Bien, j'ai gagné beaucoup de procès et je dois vous avouer que lorsque j'ai plaidé devant la Cour de cassation, qui est la Cour suprême de la Belgique, j'étais encore stagiaire. C'était en 98. J'ai rencontré, c'était d'ailleurs un Congolais qui a été condamné d'abord au premier degré par le tribunal de première instance. Cette décision a été confirmée en appel, donc il est resté en détention. J'estimais que c'était injuste, que la loi avait été violée. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'aller devant la Cour suprême, donc de faire un recours en annulation, en m'attaquant donc sur le point de droit à une cour d'appel, la prestigieuse cour d'appel de Bruxelles. Plusieurs avocats m'ont déconseillé en disant, écoutez, il ne faut pas rêver, vous n'allez pas aller devant les 12 juges solennels réunis dans leur gravité pour espérer obtenir gain de cause. D'autant plus que l'organe de la loi qui siégeait était mon propre professeur qui m'avait appris la procédure pénale, le professeur Jean Dujardin qui était avocat général près la Cour de cassation de Belgique à ce moment-là. Eh bien, contre l'avis de mon professeur, je l'ai affronté sur le point de droit devant la Cour de cassation et j'étais très heureux de voir que j'avais obtenu le gain de cause. C'est vrai que c'était très très difficile parce que je me disais, mais est-ce que je vais aller oser contredire mon professeur qui m'a enseigné? Mais en même temps, je me suis dit, mais je veux peut-être faire comme le philosophe Frédéric Nietzsche le recommande, c'est que il se plaignait toujours en disant je n'ai jamais été compris, mais seulement aimé ou blâmé. Je veux de vrais disciples. Et là, j'ai voulu être ce vrai disciple de Frédéric Nietzsche qui disait, des vrais disciples qui, au moment venu, s'écartent fidèlement de leur maître. J'ai gardé les principes de droit que le professeur m'a enseigné, mais je me suis écarté de sa thèse dans le cadre d'un contexte précis d'un dossier devant le tribunal. Oui, c'est vrai, j'ai eu aussi des dossiers où parfois les juges n'ont pas suivi mon raisonnement, mais que voulez-vous, c'est aussi le jeu au sein de l'appareil judiciaire. Mais le plus important, c'est que lorsqu'on défend un client, c'est pas toujours pour qu'il obtienne totalement gain de cause. Nous avons aussi comme avocat un rôle de conseiller, lui dire, écoutez, ce à quoi vous aspirez ne correspond pas aux exigences légales, voici ce que je vous propose comme solution intermédiaire, et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, et surtout en respectant mon serment, qui est de défendre toute cause qui me semble juste en mon âme et conscience.
Oui, mais ça vous fait quoi lorsque vous perdez un procès?
Bon, je dois vous dire aussi que généralement, il ne m'est jamais arrivé de perdre un procès sans anticiper à l'avance cette possibilité.
Et là, vous préparez déjà votre client?
Je discute évidemment avec mon client sur toutes les possibilités qui se présentent à nous, mais c'est vrai qu'après avoir déployé tant d'efforts dans un procès important, oui, il y a un moment où on est un peu abattu, mais il faut savoir se relever très vite. Vous savez, le droit, c'est aussi un peu comme le mythe de Sisyphe. C'est un éternel recommencement. Il faut tout de suite se réveiller pour la prochaine étape en appel.
Alors, vous êtes également avocat au barreau de Lubumbashi?
Tout à fait. Il faut dire que j'ai beaucoup travaillé à l'époque du bâtonnier Cyril Ngoy. J'ai aussi travaillé à l'époque du bâtonnier Checha, l'époque du bâtonnier John Kalala. Et aujourd'hui, je prête main forte aussi à Madame le bâtonnier Rose Kaja du barreau de Lubumbashi. Au départ, c'était tout simplement un jumelage entre le barreau de Bruxelles et de Lubumbashi. J'étais délégué, bien entendu, pour faciliter la relation entre les deux barreaux. Je me réjouis aujourd'hui que la bibliothèque du barreau de Lubumbashi, qui est le premier barreau de la République démocratique du Congo, ait été largement fournie grâce évidemment aux efforts de coopération auxquels j'ai moi-même pris activement part. Je me réjouis aussi du fait que des avocats congolais stagiaires du barreau de Lubumbashi ont pu prester dans le cadre de leur stage dans les gros cabinets de Bruxelles, pris en charge par ces derniers et logés. Mais je me réjouis aussi de savoir que certains avocats stagiaires belges ont pu venir apprendre aussi un peu des pratiques et du droit congolais dans le cadre de leur stage.
Est-ce que ça continue, ce jumelage?
Oui, bien entendu, le jumelage continue. Nous avons d'ailleurs l'ambition d'étendre ce jumelage à d'autres barreaux dans le monde. J'ai été notamment au barreau du Grand-Duché de Luxembourg, parce que c'est un gros barreau avec des très très gros budgets. Nous avons aussi pensé à des contacts avec le barreau de New York, de Washington, et même le barreau de Montréal, avec qui j'ai déjà pris langue.
Pour aider les jeunes avocats congolais, les aider à aller passer des stages là-bas.
Au-delà de cela, c'est aussi participer au développement du Congo, parce qu'en réalité, aujourd'hui, lorsque les investisseurs viennent de l'étranger, le premier problème, c'est de dire, mais votre droit ne correspond pas au droit tel que nous le connaissons aujourd'hui et accepté de façon universelle. Quelles sont les règles qui sont appliquées? Est-ce que aujourd'hui le Congo, au sein de l'Afrique, peut être l'élément propulseur pour ramener la législation du Congo et de l'Afrique à un niveau acceptable qui permette aux gros détenteurs des capitaux de venir investir au Congo, de créer de l'emploi et de participer, bien entendu, aux infrastructures et même à la création d'emplois.
Alors, un dernier mot peut-être à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Ben, je voudrais simplement saluer tous les Congolais qui nous suivent pour leur dire que il ne faut pas se décourager. L'espoir est permis pour l'avenir du Congo. Et je voudrais surtout dire que je ressens cette nécessité de faire bénéficier de ma grande expérience les avocats, les jeunes avocats congolais. Je le ressens d'ailleurs comme un devoir sacré.
C'était un plaisir, Maître Emeti Lolo. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la prise de son, micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.